écoutez Radio Galère au 88.4 FM ou sur www.radiogalère.org.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4 comme tous les mercredis de 18h à 19h. Ce soir, c'est BDS Provence, le comité local de la campagne BDS France, qui propose cette émission. Alors, un petit rappel pour commencer, BDS Provence a une page Facebook intitulée BDS Provence, sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond, où vous pouvez aussi nous laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions. La campagne BDS France a un site, c'est www.bdsfrance.org, avec de nombreuses informations également et des articles. Nous avons aussi une boîte mail, bdsprovence@orange.fr. Alors, ce soir, je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été fait lors de l'après-midi organisé par le collectif Palestine en résistance au début du mois de décembre dernier. Alors, je rappelle d'abord ce qu'est le collectif Palestine en résistance. C'est un collectif qui réunit une vingtaine d'associations de la région qui travaillent autour de la Palestine. Alors, je cite les principales associations. Il y a Marseille, Gaza, Palestine, Palestine 13, le groupe local de la FPS, BDS Provence, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, CCFD Terre Solidaire, le collectif Palestine Ouest étant de Ber, la MFP d'Aubagne, la LDH 13, la CIMAD 13, la librairie Transit, le Mouvement de la Paix 13, l'ANC Rouge Juif, les Chrétiens de la Méditerranée, le FUIQP, c'est le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, le PCF 13, voilà, je pense que c'est à peu près toutes les associations qui participent au collectif. Je rappelle aussi le contexte de cet après-midi dont nous avons souhaité qu'il soit un après-midi de formation. En effet, l'été dernier, un projet de résolution avait été déposé à l'Assemblée nationale par un député communiste, Jean-Paul Lecoq. Ce projet de résolution évoquait un régime d'apartheid de l'État israélien à l'encontre du peuple palestinien. Il s'agissait d'un texte parlementaire visant à demander un certain nombre de choses au gouvernement. Ce texte n'était pas un projet de loi à proprement parler, mais s'il était mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il devait être examiné dans l'hémicycle, au même titre que n'importe quel autre texte juridique. Ce projet de résolution, ne s'arrêtait pas à dénoncer uniquement l'apartheid. Hein. Il réaffirmait aussi l'importance d'une solution à deux États en Palestine-Israël. Il demandait de sanctionner les responsables des crimes contre les Palestiniens. Il exigeait du gouvernement français qu'il reconnaisse l'État de Palestine et qu'il arrête, conformément à la jurisprudence française, de déclarer illégal le boycott exigé sur les produits issus des colonies israéliennes illégales. C'était un bon travail complet de réflexion sur le conflit entre guillemets israélo-palestinien. Ce projet de résolution avait été signé par 38 parlementaires. Mais, après la publication du texte, nous avons assisté à de virulentes attaques, des mensonges, des accusations, même des insultes de la part de ministres à l'encontre des signataires de cette résolution, à tel point que, malheureusement, certains des députés qui le portaient initialement ont discrètement retiré leur signature, et notamment deux députés de la France insoumise. Alors, le collectif Palestine en résistance, pour renforcer les convictions de nos élus, a décidé d'organiser un après-midi de formation, d'information, en direction prioritairement de nos élus de la NUPES, puisque nous avons ici à Marseille plusieurs élus de la NUPES. Et pour cela, nous avons donné la parole à un magistrat, à un spécialiste de l'histoire du sionisme, à un journaliste et à une militante de la campagne BDS, qui, nous avons décidé, interviendraient chacun dans leur domaine de prédilection et répondraient à toutes les questions. Donc cet après-midi s'est passé le samedi 3 décembre et le titre de notre événement était « Et si nous parlions de Palestine ?» avec donc nos quatre invités, nos quatre intervenants de qualité, donc Guylain Poissonnier, magistrat, Pierre Stamboul, membre de l'UJFP et spécialiste de l'histoire du sionisme, Jean Stern, journaliste, et Monir Amoun, militante de la campagne BDS France. L'après-midi s'est déroulé dans une ambiance sereine, hein, le public est venu nombreux, très varié. Nous avons eu dans le public 7 élus, dont 2 députés NUPES France Insoumise. Il y avait également des militants de la cause palestinienne, mais aussi des militants de la France Insoumise et de Europe Écologie Les Verts. Beaucoup de nouveaux visages, c'était très satisfaisant et tout ce public a manifesté son intérêt et par une très grande attention et de chaudes félicitations à l'issue de plus de 3 heures d'écoute et de questions. Et donc, voilà, c'est l'intervention de Guylain Poissonnier, qui est donc magistrat, que nous allons écouter maintenant. Il nous parle du droit international, des différentes conventions, du droit européen. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Du droit international et européen dans le contexte israélo-palestinien. En introduction, peut-être, faut-il d'emblée préciser s'il y a une mode actuellement, une mode un peu journalistique, ou une mode peut-être de la facilité, consistant à dire que depuis la conclusion des accords Abraham entre Israël et un certain nombre de pays arabes, depuis la période Trump, là, il y a une nouvelle situation au niveau international qui finalement aboutit à complètement mettre de côté le droit international. Des traités de paix ont été signés entre Israël et certains pays arabes du Golfe en particulier. D'autres pays, comme le Soudan ou le Maroc, ont reconnu officiellement l'État d'Israël. On le voit aussi à l'occasion de la guerre en Ukraine et en Russie, nouvelle dynamique diplomatique entre Israël et certains autres pays qui jusqu'à présent ne reconnaissaient pas l'État d'Israël. Et donc tout cela, dans un contexte d'une sorte de nouvel ordre international, aboutirait à ce que le droit international, les paramètres du droit international, finalement, n'aient plus d'importance. Alors bien sûr, tout cela est quand même relève largement d'une mode, parce que en réalité, le droit international est toujours bien là, et ses paramètres ne changent pas depuis des décennies. Ils ont assez peu changé. Alors, il y a bien sûr quelques nouveautés que d'ailleurs nous allons essayer d'évoquer, mais les fondamentaux sont toujours présents. Alors, pour que mon propos soit le plus clair possible, je vais vous présenter dans un premier temps, dans un grand 1, ces paramètres de droit international, avec une approche purement droit international, et dans un deuxième temps, je vous présenterai quelque chose qui est un peu plus proche de nous, qui est le droit européen, et qui reprend largement, comme nous allons le voir, les fondamentaux du droit international. Donc, premier point, quelles sont ces règles de droit international qui sont applicables au conflit israélo-palestinien? Il y en a 3 types, en résumé, hein, tout ça est forcément résumé hein, à grands traits. Bien sûr, il n'est pas possible en 20 minutes de couvrir l'ensemble des éléments, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en gros, les sources du droit international en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien viennent d'une part des résolutions des Nations Unies, j'en parlerai dans un premier temps, d'autre part de l'avis de la Cour internationale de justice et d'une décision de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, et enfin, dans un troisième temps, je dirais un mot sur l'apartheid, qui est un concept juridique d'actualité qui est évoqué de plus en plus fréquemment. Donc tout d'abord, les résolutions des Nations Unies. Alors, il s'agit d'une part des résolutions du Conseil de sécurité qui s'imposent, je le rappelle, à l'ensemble des États, et d'autre part, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, les résolutions de cette Assemblée générale ayant une portée juridique et une valeur juridique, mais moins contraignante pour les États. Alors on ne va pas passer en revue les innombrables résolutions, il y en a plus de 80, du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamnent Israël, qui demandent à Israël d'agir, qui déplorent qu'Israël n'agisse pas, etc., etc. On donnera quelques exemples tout à l'heure, mais ce qui est important de retenir, c'est que globalement, aux Nations Unies, l'État d'Israël a bénéficié en dépit des violations que cet État commet, des violations du droit international, toujours bénéficier du bouclier de protection des Occidentaux en général, y compris les Européens, mais des Américains en particulier, qui, eux, ont un droit de veto au Conseil de sécurité. Alors, ce bouclier protecteur a servi soit à éviter certaines condamnations internationales, soit à éviter des sanctions prononcées par les Nations Unies. Ont ainsi pu échapper à des résolutions, au moins celles du Conseil de sécurité, qui sont les plus contraignantes, ainsi à un certain nombre d'attaques militaires, qui pourtant constituent manifestement des violations du droit international, comme en particulier comme les attaques militaires qui sont menées dans la bande de Gaza, qui sont totalement disproportionnées. Il en est de même que les attaques contre la population en Cisjordanie. Les destructions de biens civils, le pillage des ressources naturelles, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires. Il y a plus de 5000 prisonniers palestiniens en permanence détenus de manière administrative, c'est-à-dire sans procès, dans les geôles israéliennes. De même, Israël a largement échappé aux critiques concernant les actes de torture ou de mauvais traitement commis dans ces lieux de détention, les emprisonnements d'enfants qui sont réguliers, ou le blocus de Gaza, qui est manifestement illégal au regard du droit international, puisqu'il s'agit d'une punition collective durable. Toutefois, le bouclier occidental n'a pas toujours fonctionné, soit parce que l'évidence s'imposait tellement qu'il devenait compliqué de protéger l'État d'Israël, soit parce que les Occidentaux ont même considéré qu'il y avait tout de même un certain nombre de principes de droit international intangibles à respecter. Alors, si on devait résumer les règles du droit international issues des résolutions tant du Conseil de sécurité que de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ont été répétées à plusieurs reprises, on pourrait peut-être rappeler les règles suivantes. Le retrait des troupes israéliennes des territoires arabes occupés est exigé par la communauté internationale. Ça ressort en particulier des fameuses résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il est exigé la fin de l'occupation militaire. Rappelons qu'au regard du droit international, l'occupation militaire n'est pas illégale en soi, mais elle le devient lorsqu'elle dure trop longtemps, lorsqu'elle s'inscrit finalement dans le temps de manière permanente. Par ailleurs, le Conseil de sécurité, mais bien sûr l'Assemblée générale des Nations Unies, ont déclaré que la colonisation israélienne des territoires occupés était illégale, y compris celle qui est entreprise à Jérusalem. Même la déportation des Palestiniens à l'extérieur de la Palestine est illégale. Ça nous renvoie bien sûr à la situation du Sahara Amouri actuellement. C'est-à-dire que depuis des décennies, Israël a expulsé de Palestine et d'Israël un certain nombre de Palestiniens qui vivaient là, qui sont nés là, alors qu'au regard du droit international, elle n'a pas le droit de le faire. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies ont également très clairement rappelé que les territoires palestiniens occupés par Israël sont des territoires palestiniens. Il n'y a pas d'annexion possible par Israël, y compris Jérusalem, qui est une ville au regard du droit international dont le statut doit être déterminé dans le cadre d'un plan de paix approuvé par la communauté internationale, mais en aucun cas, Jérusalem peut être annexée. Toute annexion de Jérusalem est illégale. De même, les réfugiés palestiniens, et ça ressort de la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, les réfugiés palestiniens ont le droit au retour. Ceux qui ont été expulsés au cours des différents conflits, qui maintenant ne vivent plus ni en Palestine ni en Israël, peuvent bénéficier du droit au retour sur place. Enfin, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé à de nombreuses reprises le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Oui, les Palestiniens sont un peuple, même si ça ne fait pas toujours plaisir à certains. C'est reconnu par le droit international, de même que le peuple israélien est reconnu, a le droit à l'autodétermination. Tous ces rappels, faits très régulièrement par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ne tombent pas du ciel, ils sont issus d'une liste en fait, de règles et de principes du droit international au sens large, en particulier des principes du droit international public, comme le droit à l'autodétermination, des principes du droit international humanitaire, étant observé que ce droit international humanitaire régit globalement toutes les facettes d'une situation d'occupation, ce qu'on appelle le droit de l'occupation, Et ces principes sont également issus du droit des conflits armés, des conventions de Genève, des conventions de Genève, mais également du statut de Rome de la Cour pénale internationale et du droit international, enfin du droit des droits de l'homme, pardon, international. Peut-être, alors, tous ces fondamentaux, hein, ils existent, hein, depuis des décennies. On va peut-être dire un petit mot sur les tendances récentes, hein, du droit international, en particulier de deux aspects importants. D'une part, depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a une tendance assez importante à reconnaître au niveau des Nations Unies de plus en plus la Palestine comme État. En particulier, une résolution a été adoptée le 29 novembre 2012 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la France d'ailleurs l'a votée, déclarant que la Palestine est un État observateur, membre des Nations Unies. Ce n'était pas le cas auparavant, puisque la Palestine n'avait pas le statut d'État en tant que tel reconnu aux Nations Unies. À la suite de ce vote de 2012, la Palestine a adhéré à un certain nombre d'organes des Nations Unies, l'UNESCO, l'UNICEF, le PNUD, et elle a également adhéré au statut de Rome, donc elle est membre de la Cour pénale internationale. De même, une autre tendance plus récente du droit international, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle le principe de différenciation. C'est-à-dire que le droit international, compte tenu de l'occupation et compte tenu de la colonisation des territoires palestiniens occupés, exige des États et des Nations Unies qu'ils traitent différemment les entités israéliennes qui sont implantées en Israël, qui elles sont légales au regard du droit international, les entités israéliennes qui sont implantées dans les territoires occupés et qui elles, par définition, sont illégales. Le droit international exige des États qui ne reconnaissent pas ces entités israéliennes et qu'ils agissent en conséquence. Donc ça résulte en particulier de la résolution 2334 de 2016, qui est une des dernières résolutions du deuxième mandat de Barack Obama, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité et qui exige des États cette différenciation. C'est dans le cadre de cette différenciation, en particulier, qu'une base de données du Haut Commissariat des droits de l'homme a été établie en 2020 et qui exige de 112 entreprises dont la liste a été rendue publique, qu'elles cessent immédiatement leurs activités dans les colonies israéliennes. Les Nations Unies leur ont écrit, envoyé un courrier pour leur demander de se retirer parce que ces entreprises s'étaient implantées dans des entités, dans les colonies israéliennes et situées illégalement en territoire palestinien, et que, au motif que leur présence, d'une part, équivaut à une sorte de reconnaissance de cette situation légale et d'autre part pour effet de soutenir et de permettre le développement de ces colonies. Donc, parmi ces entreprises, certaines sont françaises ou européennes au sens large, et il exigeait des États, les États concernés, qui fassent pression sur ces entreprises pour qu'elles se désengagent. Deuxième source de normes de droit international en matière de conflit israélo-palestinien, c'est l'avis de la Cour internationale de justice et la décision de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. L'Assemblée générale des Nations Unies a saisi pour avis la Cour internationale de justice, qui a rendu son avis le 9 juillet 2004 pour se prononcer sur la légalité ou l'illégalité, selon, du mur de séparation construit par les autorités israéliennes en territoire palestiniens occupés. À cette occasion, la Cour internationale de justice, qui fait autorité, qui est une autorité à la fois morale mais surtout juridique dans ce qui concerne l'interprétation du droit international, a rappelé toute une série de normes. A rappelé d'une part que le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination, que ce peuple a une terre, que le droit international a fixé des frontières à ces terres, en particulier celle de la ligne verte de 1948, et que comme le mur de séparation a été pour partie construit non pas sur cette ligne verte, mais à l'intérieur du territoire palestinien, sans l'accord des autorités palestiniennes, de la population palestinienne, eh bien le tracé de ce mur de séparation est illégal et qu'il convient, il appartient aux autorités israéliennes d'abattre, de retirer ce mur immédiatement. À cette occasion, la Cour internationale de justice a également rappelé que la colonisation des territoires palestiniens est illégale au regard du droit international. Et elle a également rappelé que les effets, la colonisation est non seulement illégale sur le plan des principes, mais que les effets de la colonisation ont fond de quelque chose d'illégal, parce que tout ce qui est lié à la colonisation, c'est-à-dire les atteintes à la liberté de circulation des Palestiniens, les atteintes à la liberté d'enseigner, de pratiquer leur religion, les atteintes au développement économique qu'implique la colonisation, eh bien, nécessairement constituent des violations du droit international des droits de l'homme et rend, de ce fait, également la colonisation illégale. Et enfin, en conclusion, la Cour internationale de justice, dans son avis, dit que les États et les Nations unies doivent agir pour mettre fin à cette illégalité, tant l'illégalité de la construction du mur, de son tracé, que l'illégalité de la colonisation. Et agir comment ? En ne reconnaissant pas cette situation illégale et en faisant pression sur Israël pour qu'Israël mette fin immédiatement à cette violation, détruise le mur et mette fin à la colonisation. Au besoin, prenant des sanctions. Comme vous le savez sans doute, malheureusement, cet avis de la Cour internationale de justice a été peu suivi des faits. Il y a une décision plus récente qui est intervenue, c'est celle rendue par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, située également à La Haye. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale, comme son nom l'indique. Et cette décision est intervenue le 5 février 2021 à la suite d'une saisine du procureur de la Cour pénale internationale, qui lui-même a été saisi par la Palestine de violation du droit international. Et pour y voir plus clair au regard du droit international, le procureur a décidé de demander à la chambre préliminaire de prendre une décision publique et d'expliquer si la Cour pénale internationale était bien ou pas compétente pour connaître de violations du droit pénal international et le cas échéant, puisse être engagée des poursuites contre des individus. La Cour pénale internationale ne juge pas les États, elle juge les individus auteurs de violations du droit international. À cette occasion, donc, la chambre préliminaire, composée de 3 juges totalement indépendants, juristes de grande qualité, il y avait d'ailleurs un magistrat français dans la composition de la chambre préliminaire, a apporté un certain nombre de précisions sur le droit international applicable. Il a dit d'une part que cette chambre préliminaire dit d'une part que la Palestine est un État, que la population de cet État bénéficie du droit à l'autodétermination, que cet État, la Palestine, est reconnu au niveau international, en particulier au niveau des Nations Unies, que la Palestine est un État membre de la Cour pénale internationale, du statut de Rome, qu'elle a adhéré d'ailleurs de manière tout à fait régulière, en respectant la procédure d'adhésion, que le territoire de la Palestine est composé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza, et que les accords d'Oslo, qui datent des années 90, et leurs clauses limitant la compétence palestinienne dans un certain nombre de domaines, ne sont pas pertinents pour le règlement de la question de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale en Palestine. Et que, par conséquent, le procureur de la Cour pénale internationale peut valablement enquêter sur les violations du droit international commises sur le sol palestinien. Donc on se dirige, bien sûr, vers une enquête du procureur de la Cour pénale internationale à la suite de la saisine de la Palestine qui a porté à sa connaissance toute une série de violations. Alors cette enquête prendra bien sûr beaucoup de temps, d'autant plus que immédiatement Israël a annoncé qu'elle ne coopérerait pas avec la Cour pénale internationale. Mais on peut raisonnablement penser que dans quelques années, il y aura des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre les auteurs israéliens de ces violations droit pénal international, étant observé qu'il y a également une enquête qui sera réalisée sur d'éventuelles violations commises par les factions armées palestiniennes, en particulier le Hamas. Alors, au regard de tous ces paramètres, rappelés soit par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies, soit par la Cour internationale de justice, soit par la Cour pénale internationale, pour ceux qui connaissent un petit peu le mouvement BDS, mouvement qui est régulièrement critiqué, présenté comme antisémite, dangereux ou illégal, eh bien, quand on prends quelques instants pour lire l'appel 9 juillet 2005 par la société palestinienne à se mobiliser pour la campagne BDS. On retrouve l'ensemble de ces paramètres du droit international, à savoir la reconnaissance du droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination, la fin de l'occupation avec le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, la fin de la colonisation, le démantèlement du mur, la reconnaissance des droits fondamentaux des Palestiniens, la reconnaissance des droits des réfugiés palestiniens. Vous voyez donc l'ensemble des éléments qui en réalité sont parfaitement reconnus par les organes des Nations Unies. Alors lorsque c'est demandé par la société civile palestinienne dans le cadre de la campagne BDS, c'est considéré comme antisémite et illégal, alors qu'en fait, en réalité, ce que demande la campagne BDS, c'est purement et simplement le respect des paramètres du droit international qui ont été rappelés par les Nations Unies, par des juridictions des Nations Unies, proches des Nations Unies. Peut-être un petit mot maintenant sur l'apartheid, avant qu'on évoque le droit européen. Alors l'apartheid, cela fait plus de 30 ans maintenant que l'on parle d'apartheid en Cisjordanie. C'est en particulier, d'ailleurs ce sont en particulier les Sud-Africains qui, lors de différentes missions, que ce soit des officiels sud-africains ou des membres de la société civile sud-africaine, se sont rendus en Cisjordanie, qui ont commencé à en parler, ou un certain nombre d'universitaires, y compris des universitaires américains, en disant que ce qu'ils constataient, ce qu'ils voyaient en Cisjordanie, bien, relevait juridiquement de l'apartheid. Les choses tentent à se préciser, hein, puisque depuis maintenant 2017, 2018, 2019, un certain nombre d'organisations de la société civile palestinienne, mais également de la société civile israélienne, en particulier une organisation qui s'appelle B'Tselem, une autre qui s'appelle Yejin, ont rendu des rapports qui, officiellement, après une analyse juridique assez poussée, hein, considèrent que la situation des Palestiniens relèvent de la pratique de l'apartheid. Et puis, plus récemment, des ONG internationales, Human Rights Watch et Amnesty International, même chose, après avoir étudié avec des juristes, avec des activistes, la situation et rendu un rapport, ont considéré que, désormais, ils considéraient que la situation relevait d'une discrimination raciale systématique, ce qu'on appelle le crime d'apartheid. Alors il y a une définition qui est donnée par le droit international de ce que c'est qu'une situation d'apartheid. Il y a une convention internationale des Nations Unies adoptée en novembre 1973 qui est entrée en vigueur en 1976, et puis le statut de Rome, qui est le statut de la Cour pénale internationale, entré en vigueur en 2002, qui crée la Cour pénale internationale, donne une définition juridique de ce que c'est que l'apartheid, qui en fait l'un des 10 crimes contre l'humanité relevant de sa compétence. Alors, les deux textes, sont très proches, même s'il y a des petites différences, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le crime d'apartheid, en résumé, hein, le crime d'apartheid, c'est une succession d'actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial, et dans l'intention de maintenir ce système, à savoir donc cette supériorité. Pour Amnesty International, ce système d'apartheid en Israël et en Palestine est institutionnalisé à la fois en raison de la fragmentation territoriale et démographique de la population palestinienne, fragmentation qui est organisée par Israël, à la fois en raison des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires à l'égard de la population palestinienne, et à la fois au regard de la volonté de domination de la part des autorités israéliennes sur la population palestinienne. Alors, puis, il y a de plus en plus un consensus, hein, dans le petit monde des ONG pour considérer que la situation relève du crime d'apartheid. Finalement, le débat aujourd'hui, ça serait, est-ce que, s'il mettrait un peu à ça, est-ce que cette situation d'apartheid, elle est valable pour l'ensemble de la population palestinienne sur tout le territoire, à la fois israélien et palestinien, ou est-ce qu'il se limite à ce que vivent les Palestiniens au quotidien dans les situations d'occupation, avec en particulier ce régime juridique qu'on retrouvait en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, où il y a toute une série de normes de droit qui s'applique aux colons, qui sont très protecteurs pour les colons installés en Palestine, qui ont le droit à l'application du droit civil, du droit pénal israélien, qui sont protégés par les juridictions israéliennes, qui peuvent circuler librement, etc. Pendant que dans le même temps, les Palestiniens, eux, n'ont, n'ont pas le droit aux juridictions israéliennes, n'ont pas le droit de bénéficier de la protection du droit israélien, sont victimes de discriminations au quotidien, emprisonnés, etc., sont en violation de toute une série de normes du droit international. Nous en venons maintenant au droit européen. Alors, je vais organiser mon propos en trois points. Dans un premier temps, je vais vous parler du cadre général fixé par ce droit européen. Dans un deuxième temps, j'évoquerai avec vous les lignes directrices de 2013 et la communication par la législation européenne sur l'étiquetage des produits d'économie. Et puis, nous évoquerons rapidement, en troisième point, la question de la liberté d'expression et une décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout d'abord, le cadre général du droit européen. Alors, il est important de comprendre que le droit européen reprend globalement le droit international et toutes les normes du droit international, et ensuite les décline ce droit sur le sol européen, tantôt en l'adaptant, tantôt en le précisant. L'Union européenne et la plupart des États européens se considèrent comme des États de droit, et dans un État de droit, au sommet de la pyramide, enfin, au sommet des normes juridiques, il y a le droit international, ensuite le droit régional, si le droit européen, et enfin le droit national. Dans le cadre de cette pyramide, le droit européen et le droit national doivent être conformes au droit international. Et ça, les États européens et l'Union européenne sont engagés à faire en sorte que le droit européen et le droit national soient toujours conformes au droit international, c'est-à-dire en clair aux résolutions des Nations Unies et aux décisions de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice ou toutes les grandes juridictions internationales. Rappelons par ailleurs que la politique extérieure de l'Union européenne doit être déterminée en fonction du droit international. L'article 3, paragraphe 5 du traité de 2012 de l'Union européenne dit la chose suivante: dans ses relations avec le reste du monde, l'Union européenne affirme et promeut des valeurs et ses intérêts, mais elle s'engage au strict respect et au développement du droit international, et en particulier au respect des principes de la Charte des Nations Unies. Vous voyez donc, l'Union européenne, dans sa politique étrangère, dans sa politique extérieure, bien place au cœur de cette politique le respect et le développement du droit international et bien sûr des droits de l'homme. C'est précisé également dans cet article 3. Bien sûr, il y a tous ces principes, mais après il faut que ces principes soient déclinés dans des politiques concrètes. Et il faut dire qu'en ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et Israël, il y a eu finalement assez peu d'initiatives visant à faire respecter le droit international. Par exemple, il aurait été assez logique que l'Union européenne prenne des sanctions, ou à défaut de sanctions, au moins gèle un certain nombre de coopérations, puisque, comme vous le savez sans doute, en 1995, ce texte est entré en vigueur en 2000, il y a eu un accord, dit accord euro-méditerranéen, établissant une association entre les communautés européennes et Israël. Et donc cet accord présente une série de privilèges, de bénéfices, d'avantages, facilitant le commerce, les échanges entre Israël et l'Union européenne. Or, l'article 2 de cet accord dit que cet accord est fondé sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent à la fois, dit le texte, l'Union européenne, à l'époque les communautés européennes, mais également l'État Israël. Et que si ces principes ne sont pas respectés, l'article 79 est précis, une suspension de l'accord est possible. Les partis ne respectent pas leur engagement de s'engager sur le respect des droits de l'homme et les principes démocratiques. Eh bien, même si cela a été demandé par de nombreuses associations au niveau européen, mais aussi en France, eh bien, cet accord n'a jamais été ni suspendu, ni gelé. Il n'y a pas eu d'adaptation pour faire en sorte que certaines clauses de cet accord soient suspendues. Mais en revanche, un domaine où un certain nombre d'initiatives ont été prises par l'Union européenne, c'est justement la différenciation. Vous vous souvenez, je vous ai indiqué tout à l'heure que c'était une tendance, un peu depuis une dizaine d'années, du droit international d'exiger des États et des Nations Unies qu'une différenciation soit faite entre les entités israéliennes situées sur le territoire israélien et les entités israéliennes situées en territoire palestinien occupé. Et alors, sur ce plan-là, l'Union européenne a pris des initiatives. Elle a d'une part adopté des lignes directrices le 19 juillet 2013 relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis 1967 et les activités qu'elles y déploient en matière de subventions, d'instruments financiers, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce jargon un peu technocratique? Ça veut dire que désormais, l'Union européenne s'interdit de financer des programmes de recherche, de coopération, de donner des subventions à des entités israéliennes situées dans les territoires occupés palestiniens. En clair, à tout ce qui se trouve, des laboratoires, des entreprises, etc., qui se trouvent dans des colonies israéliennes. Et puis, par ailleurs, en 2015, la Commission européenne a adopté une communication interprétative invitant les États membres de l'Union européenne à prévoir une législation spécifique relative à l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes. On aurait pu attendre de l'Union européenne qu'elle dise on interdit purement et simplement l'importation des produits des colonies, puisque ces produits proviennent d'entités qui sont illégales au regard du droit international. Mais la Commission européenne a sans doute considéré que c'était aller trop loin. Il fallait se contenter d'apposer un label particulier sur ces produits issus des colonies. Alors en France, cette communication interprétative a été transposée par le ministère de l'économie et des finances dans une communication interprétative qui a été publiée au journal officiel en 2016, le 24 novembre 2016. Et qui impose à tous les opérateurs économiques, aux distributeurs, une mention obligatoire indiquant que le produit en question provient d'entités doit être clairement indiqué qu'il s'agit que ces produits viennent des colonies israéliennes qui sont situées en territoire occupé, pour que le consommateur soit informé et puisse décider librement d'acheter ou de ne pas acheter ce produit. Un recours a été introduit en France contre cette législation et porté devant le Conseil d'État d'importateurs de vins israéliens produits dans les colonies. Le Conseil d'État français a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour demander une clarification sur ce point et la Cour de justice de l'Union européenne, le 12 novembre 2019, a rendu un arrêt qui valide cette législation européenne ainsi que la législation française, et qui reconnaît que l'Union européenne a tout à fait le droit, au regard des paramètres que je viens d'indiquer, parce que l'arrêt est très très clair, il reprend tous les paramètres du droit international, disant oui, bien sûr, pour se conformer au droit international, l'Union européenne était tout à fait en droit d'exiger l'étiquetage des produits des colonies. Cependant, il s'agit toujours d'un sujet d'actualité, puisque on pourrait attendre que l'Union européenne aille plus loin dans cette logique et interdise purement et simplement l'importation de ces produits. Une pétition, d'ailleurs, qui s'appelle Stop Colonies, a été lancée par la société civile européenne et vise à obtenir 1 million de signatures pour qu'une initiative citoyenne européenne soit reconnue en tant que telle par la Commission pour obliger la Commission à prendre une législation, à proposer au Conseil des ministres une législation au Parlement, une législation interdisant purement et simplement l'importation des produits des colonies. Et troisième point, j'avais promis de vous en parler, c'est l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors on quitte un petit peu le cadre de l'Union européenne, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle, relève du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, qui en 2020 s'est prononcée à l'occasion d'un arrêt Baldassi du 11 juin 2020 sur la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens. Dans cet arrêt rendu à l'unanimité des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, le 11 juin 2020, la Cour a administré une condamnation aux autorités françaises en déclarant que la France avait eu tort de poursuivre sur le plan pénal les militants de la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions, ayant appelé au boycott des produits israéliens dans les supermarchés. Pour avoir participé à ces campagnes d'appel au boycott, ils avaient été d'abord en première instance relaxés, puis condamnés par la Cour d'appel de Mulhouse. La Cour d'appel de Mulhouse, son arrêt avait été confirmé par la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui avait dit oui, c'est conforme à la réglementation française, et la Cour d'appel de Colmar était en droit de prononcer ses condamnations. Recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, et là, la Cour européenne des droits de l'homme dit non. La Cour de cassation n'avait pas raison de faire ça, la Cour d'appel de Colmar non plus, c'était illégal. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, on porte atteinte, en condamnant ces militants, on porte atteinte à leur liberté d'expression. Ils sont tout à fait en droit, en qualité de citoyens français, de militants associatifs, d'exprimer des opinions et d'exiger, je cite là l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit la chose suivante, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d'intérêt général, celui du respect du droit international public par l'État d'Israël et la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, et s'inscrivaient dans le cadre d'un débat contemporain ouvert en France comme dans toute la communauté internationale. Et les actions et propos imputés à ces militants relevaient de l'expression politique et militante. Donc ces militants peuvent tout à fait, dans le cadre de ce discours politique, prononcer des appels au boycott des produits israéliens s'ils estiment qu'Israël ne se conforme pas à aux normes de droit international. Ils sont couverts par l'article 10, ces militants, par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, j'en arrive au terme de mon propos. Peut-être un petit mot en conclusion. Vous avez compris, hein, ces paramètres du droit international, ils restent toujours les mêmes, ce sont des fondamentaux. Mais ce qui pêche un peu en la matière, ce n'est pas tellement finalement l'existence de ces paramètres, c'est la manière dont ils sont appliqués, ou dont ils ne sont pas appliqués précisément par les États, et en particulier les États européens et la France. Tant est si bien que l'État d'Israël bénéficie d'une sorte d'impunité, les paramètres du droit international sont rappelés, les violations sont constatées par les différents organes des Nations Unies ou par les organes européens, et derrière, ça ne suit pas, il n'y a pas de sanctions, on ne remet pas en cause les accords de coopération, on ne gêne pas, on ne suspend pas les différentes coopérations qui existent, coopérations scientifiques, technologiques, économiques, universitaires, sportives, etc. Et il y a une sorte de blocage parce que tout le monde semble craindre d'agir enfin pour faire respecter le droit international. Quelques pistes pour essayer de mettre fin à cette impunité, bien sûr prendre des sanctions au niveau européen, au niveau national, il appartient également à la France, tant à son Parlement qu'à ses autorités, ses ministères, de prendre des initiatives pour geler, pour mettre fin à des coopérations qui existent avec l'État d'Israël, pour que l'État d'Israël se conforme au respect du droit international. Il faut également mettre en œuvre la différenciation qu'on a évoquée tout à l'heure, de manière plus poussée.
Voilà, eh bien, merci. C'est une intervention très dense, hein, très intéressante, mais très dense. Alors, justement, pour nous détendre un peu, nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter une chanson d'une jeune artiste palestinienne qui est chanteuse, autrice, compositrice, instrumentiste, qui s'appelle Racha Naas. Elle est née et elle a grandi à Haïfa. Elle vit maintenant à Berlin depuis 5 ans. Et dans son nouvel album, elle parle de la manière dont elle libère ses blessures émotionnelles. Elle parle du pouvoir désarmant de la musique et de comment elle navigue dans son identité entre Haïfa et Berlin. Alors nous allons écouter une chanson qui s'appelle Amrat. Ça veut dire parfois, et je vous lis quelques phrases de cette chanson, quelques phrases traduites. Parfois, je me languis de ma terre natale, parfois, je m'ennuie de moi-même, parfois, je doute de mon chemin, parfois, je ne sais pas ce que je veux, parfois, j'ai peur de la profondeur, parfois, il fait froid dans cette étreinte, parfois, j'ai peur que le passé m'oublie. Si je n'avais pas peur, je ferais mes valises et je partirais. Voilà, nous écoutons cette chanson, à tout de suite.
Amrat bahen la bladi, Amrat bashtaq la hali, Amrat bashik bdarbi, Amrat baarif shu baddi. أمرت بخاف الغمار
Voilà, une bien jolie chanson. Alors, avant de terminer cette émission, je veux vous faire un retour sur les différentes campagnes d'appel au boycott que nous menons actuellement, qui sont des campagnes internationales, hein, qui sont suivies dans de très nombreux pays. Alors, il y a d'abord la campagne contre Puma, contre l'équipementier Puma. Je rappelle rapidement les raisons de cette campagne. C'est que Puma est le principal sponsor de l'association israélienne de football, IFA. Et l'IFA comprend des clubs des colonies illégales. Alors à ce titre, Puma, on peut dire, est doublement complice. D'une part parce qu'il parraine une association qui est complice elle-même des violations israéliennes du droit international et des droits humains. Et d'autre part parce que Puma, elle a pour titulaire de licence exclusive en Israël des entreprises qui ont des activités dans les colonies israéliennes illégales. Donc double complicité, on peut le dire. Cette campagne contre Puma a été mise en place en 2019. Elle est toujours en cours, elle s'intensifie. Alors si vous voulez aider, d'une part, vous boycottez tous les produits de la marque Puma, vous appelez au boycott de ces produits. Et d'autre part, vous savez que notre équipe de football, l'OM, hein, notre équipe favorite, l'OM est sponsorisée par Puma. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez des contacts avec l'OM ou avec des clubs de supporters de l'OM, vous pouvez leur parler de cette campagne et des raisons de cette campagne et demander que l'OM suspende son sponsor avec Puma tant que celui-ci restera sponsor du football israélien. Ou vous pouvez demander à l'OM de faire pression sur Puma pour que Puma cesse de soutenir le football israélien. Donc, une autre campagne internationale, c'est la campagne contre une entreprise qui s'appelle CAF, C-A-F, CAF. C'est une entreprise espagnole du Pays Basque et c'est une entreprise qui fabrique du matériel ferroviaire, oui, des trains, des tramways, etc. Et c'est une entreprise qui est en train de s'implanter sur le territoire français où elle possède maintenant 2 sites. Alors, quel est le problème avec cette entreprise ? Eh bien, le problème, c'est qu'en 2019, CAF a obtenu l'extension du tramway de Jérusalem, l'exploitation et la maintenance de la première ligne du tramway de Jérusalem, qui s'appelle la ligne rouge. Et le tramway s'appelle Jérusalem Light Rail, JLR. C'est un tramway urbain relie toute la partie ouest de Jérusalem aux colonies installées dans la partie est de Jérusalem occupée, de Jérusalem est occupée, et aux colonies qui sont autour de Jérusalem est occupée. Donc, on peut dire que ce tramway, eh bien, il a pour but de faciliter le déplacement des colons, hein, de Jérusalem au ouest, donc la partie israélienne, aux colonies à l'est. Et donc, alors CAF a obtenu en 2022 le projet de construction, d'exploitation et de maintenance de la troisième ligne de tramway, qui s'appelle la ligne verte, ironiquement. Hein. Donc on peut dire que CAF participe au crime de colonisation selon le traité de Rome et la Cour pénale internationale. Or, CAF répond à des appels d'offres partout en Europe, d'abord en Espagne, puis en Norvège, en Angleterre et en France également, puisque en France, CAF a obtenu le marché de la construction, enfin de l'entretien du tramway de Montpellier, un grand marché. Donc du coup, en 2020, le Comité national palestinien du BDS décide de mettre en route une campagne contre CAF. Alors, je rappelle que en fait, en 2018-2019, en France, une campagne avait fait plier les entreprises Alstom et Veolia, qui c'était les deux entreprises qui avaient participé à la construction des premières lignes de tramway à Jérusalem. Et une pression internationale avait fait perdre d'immenses contrats à ces deux entreprises. Veolia s'était complètement retirée des transports en commun en Israël. Alstom a continué certains projets en Israël, mais elle ne participe plus à l'extension du tramway de Jérusalem. Donc l'idée, c'est que ce qui avait été réussi avec Alstom et Veolia pouvait l'être aussi avec CAF. Et donc du coup, en février 2021, une trentaine d'organisations et de syndicats du monde entier, dont la France, lance un appel à l'ONU, hein, pour que CAF soit ajouté sur la liste, vous savez, la liste des 112 entreprises complices de la colonisation israélienne. L'ONU a publié en 2020, février 2020, je crois, une liste de 112 entreprises qui tirent du profit des colonies israéliennes illégales. Eh bien, on a demandé à ce que CAF soit également sur cette liste. Alors, en quoi nous, à Aix-Marseille, nous sommes particulièrement concernés ? Eh bien, nous sommes particulièrement concernés parce que la métropole Aix-Marseille-Provence a déjà signé un contrat avec CAF pour le prolongement et la rénovation du tramway à Marseille et qu'elle envisage de signer d'autres contrats avec CAF. Alors, depuis quelques mois, hein, nous avons fait un travail auprès des conseillers métropolitains pour les avertir de la situation de CAF en Palestine occupée, de la complicité donc de CAF avec la colonisation. Malheureusement, les conseillers métropolitains ne se sont pas tellement intéressés à cette histoire-là. Nous n'avons pas eu de réaction. Il y a un travail a été fait aussi auprès de la presse locale et nationale, et un article que j'ai moi-même écrit a été publié dans l'excellent mensuel de critique et d'expérimentation sociale qui s'appelle le journal CQFD. Donc cet article a été publié dans le numéro du mois de février de CQFD. L'article s'intitule « Un tramway nommé colonisation ». Donc vous pouvez le trouver sur le site de CQFD si vous n'êtes pas abonné au journal. Voilà, donc nous continuons cette campagne contre CAF et nous verrons bien ce que ça va donner. Alors, il existe également aussi actuellement une campagne plus récente, qui est la campagne qui a été mise en place contre Carrefour, les magasins Carrefour. En effet, il faut savoir que depuis peu de temps, Carrefour est en train de s'impliquer dans la colonisation en Palestine. En mars 2022, Carrefour annonçait par un communiqué de presse, il annonçait avoir signé un accord de franchise en Israël avec deux sociétés israéliennes. Et c'est les deux sociétés, c'est Electra Consumer Products et sa filiale qui s'appelle Yenot Bitan. Cet accord a permis à la marque Carrefour de s'installer en Israël et tous les magasins Yenot Bitan, il y en a plus de 550 à ce jour, se développent en ayant accès aux produits de la marque Carrefour, c'est-à-dire que des produits de la marque Carrefour sont vendus dans ces magasins-là. Cet accord prévoit également que les deux marques Yenot Bitan et Mega seront abandonnés prochainement au profit de la marque Carrefour. Donc il y aura des magasins qui s'appelleront vraiment Carrefour dans les colonies. Hein. Donc, ces magasins les plus importants sont dans les colonies, les grandes colonies d'Ariel et de Mahal Adoumin, et ainsi que la colonie qui s'appelle Alfi Ménaché. Alors, au-delà de cette complicité directe, hein, Carrefour se compromet avec des sociétés israéliennes elles-mêmes, comme la société Electra Consumer Products, hein, qui est impliquée en plus dans le cadre de certaines de ses activités, hein, puisque par l'intermédiaire de ses filiales, elle est un des plus importants acteurs de la colonisation par le développement d'activités dans les colonies avec des constructions de logements, des infrastructures routières et ferroviaires, l'adduction d'eau, le réseau téléphonique, donc cette grande société Electra Consumer Products, avec laquelle Carrefour a signé un contrat, elle est vraiment très 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 impliquée dans le développement des colonies. On sait que la colonisation, c'est un crime de guerre, hein, au regard du droit international. Et quelle est actuellement la colonisation reste la question majeure qui empêche toute avancée dans le règlement de la question palestinienne. La colonisation, elle est déclarée illégale par le droit international, avec bien sûr tout un ensemble de conventions, de résolutions, les conventions de Genève de 1949, qui interdisent à tout État occupant de déplacer sa population dans l'État occupé. Hein. Et on a jusqu'à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution numéro 2334, qui date du 23 décembre 2016. Donc, Carrefour doit absolument cesser tout lien avec la colonisation. Hein. Cet accord qu'il y a de Carrefour avec les entreprises israéliennes, il est contraire en plus, on peut le dire, aux obligations des entreprises en matière de droits humains et de respect du droit international, ces droits qui découlent bien sûr des conventions de Genève et qui sont précisés en plus par les principes directeurs de l'ONU et par les principes directeurs de l'OCDE. Donc cet accord est en plus on peut le dire, est complètement contradictoire avec la philosophie affichée par Carrefour en matière d'éthique et de droits humains. Hein. C'est vraiment si on considère que Carrefour vraiment veut respecter sa charte éthique, là il n'y est pas du tout. Hein. Alors il y a une coalition en France qui s'est mise en place pour travailler sur ce sujet-là, et cette coalition qui est composée de la FPS, de l'association ALAC, de la CGT, de la Fédération CGT du Commerce, de la LDH, la plateforme des ONG pour la Palestine, de l'Union syndicale solidaire. Donc toutes ces associations ou ces fédérations ou ces syndicats se sont regroupés et ont publié un rapport qui détaille vraiment la complicité de Carrefour. Et les signataires du rapport, donc, on décidait d'appeler le groupe Carrefour à se conformer aux principes internationaux en cessant toute activité en lien avec la colonisation israélienne. Donc ça implique que Carrefour mette fin dans les plus brefs délais à son partenariat avec l'entreprise Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan. Et cette coalition qui travaille sur cette campagne demande également à l'État français d'agir pour que le groupe Carrefour et les autres entreprises françaises prennent enfin la pleine mesure de leurs obligations et mettent fin à toute relation d'affaires pouvant avoir un lien avec la colonisation israélienne. Alors, cette campagne contre Carrefour, qui a été mise en place donc il y a quelques mois, eh bien, a décidé de faire une semaine nationale d'action. Cette semaine nationale d'action vient d'être faite en France du 4 au 11 mars. Donc, des actions ont été faites un peu partout en France. Vous pouvez trouver des comptes rendus sur les pages Facebook, notamment sur la page de BDS Provence. Nous-mêmes, nous avons fait une action devant un magasin Carrefour. Et nous avons également envoyé de nombreux courriers aux dirigeants du groupe Carrefour, et nous allons continuer ce travail jusqu'à ce que Carrefour dénonce enfin les contrats signés en Israël. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. L'émission se termine. Merci beaucoup à Sidi pour la technique. Et puis, bonne soirée à tous et à mercredi prochain pour une nouvelle émission de Une heure en Palestine. Shalabi